Etken et la cité franche. 16e jour du 5e mois de l'an 2325. Etken. Nous arrivons enfin au bout des Highlands, à Etken, au bord de l'énorme bassin du pôle sud. Nous échouons chez le gardien des glaces, le soleil sur les talons, secoués par la longue route, roulés comme des galets dans les sables, le regard lavé par les flots du ciel noir. Dans les plis de nos carcasses traînent les relents de poudre du régolithe, des effluves de solvants, d'oxygène compressé, de vapeur d'eau et de lubrifiant. J'ai descendu Louge à l'abri dans les caves du gardien des glaces. Il dort. Les analyses médicales sont satisfaisantes. Évidemment, son espérance de vie a été un peu abrégée par notre voyage, mais je ne crois pas que ce soit ce qui menace le plus sa santé à brève échéance. Le gardien des glaces et moi, nous sommes installés sous la bulle du poste de commande de l'usine de glace. Je contemple le ciel à travers le voile bleuté du duraglace. Les rochers les plus proches sont d'un blanc aveuglant qui contraste avec l'obscurité profonde de leurs ombres. Au-delà, le paysage apparaît d'une beauté admirable. Je vois luire le fer fondu des falaises contre le satin des avers et au loin, la forme parfaite du piton de Vertrecht. Il surplombe comme un phare la grande plongée du bassin du pôle. Sous mes pieds, les débiteuses de glace font trembler le sol. J'ai raconté les faits à mon hôte. Je lui ai soumis des hypothèses et j'ai posé des questions. Il a répondu avec sa bienveillance habituelle en jouant de la flûte à parfum. Ses raisonnements sont limpides, c'est pourquoi j'apprécie de lui demander conseil.
« Je te promets de plonger dans les méandres juridiques du code pénal intercité, » a-t-il dit, « et de voir ce que je peux en tirer pour Louge. Tu as mon laboratoire à ta disposition pour ta quête contre la fièvre aspic. Fais-moi voir le profil ADN de Trim. Non, décidément, aucune séquence parente n'apparaît dans les relevés de toutes les cités affiliées à l'intercité. »
Ensuite, nous avons causé symbiotique et agronomie. Car le gardien des glaces n'est pas seulement un juriste émérite, c'est aussi le meilleur symbioticien de la planète. Bien sûr, eu égard à son poste, c'est aussi un roboticien accompli, un excellent glaciologue, un minéralogiste reconnu, et il n'a pas son pareil pour mener des forages explosifs. Mais ces compétences-là ne dépassent pas, chez lui, le stade de l'obligation professionnelle. Alors que ses études des symbioses sont enthousiastes. En ce moment, il observe les transitions évolutives de plusieurs bacs de levure de riz, en guettant l'émergence d'interactions durables.
Il y a fort, fort longtemps, on croyait à la survie du plus apte,
explique-t-il en faisant défiler des données devant lui, et ses mains fines semblent nager dans les nombres.
On voyait les unités biologiques comme des entités indépendantes. D1, encore et toujours D1, aussi libres et légers que des bulles. Comme elles vouées à disparaître. On a vu où ça a mené, cette obsession de l'individualisme.
Joue-moi quelque chose. Il reprend sa flûte et improvise un air lugubre, amande amère et grande ciguë. Je connais la cause de sa mélancolie. Les symbioticiens ont scientifiquement raison quand ils considèrent la fièvre aspic comme une pression évolutive, c'est-à-dire un phénomène contrariant sur le moment et positif sur le long terme. Mais sensiblement, c'est une autre histoire. Disons qu'ils ont raison, mais dans la réprobation unanime. D'ici un jour ou deux, je laisserai Louge au gardien des glaces. J'irai à la cité franche en char à voile. Les vents solaires me porteront. J'ai joint Trim, qui m'a confirmé que l'aube solaire n'avait pas aggravé la situation de la côte 237. Il m'a donné des nouvelles des habitants de la ferme par le menu. Je crois qu'il s'ennuie de moi, et je crois que c'est réciproque. 18e jour du 5e mois de l'an 2325, au nord d'Etken. La cité franche est à 500 km d'Etken, près du cratère Dédale. Ma voile file entre les membres éparpillés de sa nombreuse famille, 9 cratères mineurs aux flancs escarpés et poudreux. Après Dédale 5, je passe sous les piliers de Tannhauser, d'immenses jets plasmatiques verts et bruns. Ils s'élèvent et se déploient sur le ciel comme des arbres fantastiques, hissant à plus de 500 mètres leurs ramures dorées, puis retombent en enfantant dans les bouillons sombres de leurs troncs gigantesques de brèves étoiles rouges. Les premiers artistes lunaires avaient décidément de folles ambitions. Ils ne savaient pas encore à quel point la vie à la surface est une insurmontable épreuve. On sent, dans cette œuvre monumentale que sont les piliers, la joie démesurée d'avoir trouvé un nouveau paysage et la volonté de le peupler de présence humaine. Mais la Lune n'est pas la Terre, La lune n'est pas une alma mater. Et aujourd'hui, les piliers ne sont magnifiques pour personne. Je mettrai fin à mes rapports aux abords de la Cité Franche. C'est plus prudent. 26e jour du 5e mois de l'an 2325, au nord d'Etken. Je ne raconte pas ici la façon dont j'ai pénétré dans la Cité Franche, évidemment. La Cité Franche n'a pas changé depuis la dernière fois où j'y suis venu. C'est toujours un incroyable entrelac de chaussées et de containers, de câbles et de passerelles tendues entre des parois suintantes. Sur plus d'un kilomètre de haut, les trottoirs s'accrochent aux logements, les boutiques aux trottoirs, les pontons aux boutiques, les embarcations aux pontons. Tout ça tangue et roule sous les galopades d'une population en panique permanente. Parfois, ça s'effondre lentement parmi les cris et les hurlements du métal torturé, dans de grandes gerbes de poussière grise et rousse, rouille et régolite mêlées. L'air est épais à la Cité Franche. Épais, puant et décidément malsain. Car le sol de la ville est un cloaque mal drainé où toutes sortes de liquides croupissent, fermentent et s'évaporent. Cette atmosphère méphitique forme une brume où brillent doucement les célèbres vitraux francitadins. Ils ornent chaque fenêtre, chaque porte et chaque balustrade, tantôt d'un suave orangé, tantôt d'un rouge de braise somnolente. Les enseignes commerciales sont taillées dans de très beaux bleus qui lancent des arcs dans le brouillard. Hélas, de grandes plaques de réclames agressives naviguent à vue, inondent de couleurs crues les galeries et ajoutent leur hurlement au vacarme ambiant. Car ici, tout et tous crient, trompettes et tonitrues, sans aucune chance de se faire entendre. C'est une énigme que je résous cette fois-ci facilement. Il s'agit de la force de l'habitude. Les plafonds de la Cité Franche disparaissent derrière des nuages multicolores dont je n'ose pas imaginer la composition. Ils ressemblent à un troupeau de moutons au ventre peinturluré et diffusent une lumière zénitale qui ne descend pas bien loin. Le reste de l'éclairage urbain est confié à des torchères flottantes sales à faire peur, qui ne parviennent pas à lutter contre la pénombre. J'ai longtemps marché dans le lacis des quartiers excentrés, visitant un centre de soins après l'autre et échantillonnant l'ADN de tous les chats qui le voulaient bien. Je ne suis pas allé bien loin, cependant, tant je titubais sur les dalles descellées et les lattes déclouées. Tout dans la Cité Franche est décati et proche de tomber en poudre, puis revissé à la hâte et étayé de travers. L'hygiène est confiée à des déchétophiles qui sont autant de robots fous. Ils filent entre vos jambes, vrombissent en essaim, et le seul moyen d'avancer est de leur donner des coups de pied. J'en suis arrivé à frapper des torchères, des passants, des drones de livraison et des surfs surchargés. Mes coups ne m'ont pas attiré d'ennui. Ici, tout le monde tabasse tout le monde. En revanche, je n'ai pas aperçu la moindre verdure, à part quelques paniers de sureaux nains qui voguaient sur les flots de brouillard. Ces sureaux m'ont semblé génétiquement sains. Ils sont assez seuls dans ce cas, à la Cité Franche. J'ai relevé chez les humains de nombreuses anomalies. Elles ne sont pas toutes voulues. Les appendices caudaux, sûrement, sont volontaires. Mais j'ai des doutes sur les doigts palmés et de quasi-certitude sur les aniridies. Quoique, les humains connaissent des modes farfelus. Être revenu à la Cité Franche me permet de mesurer le fossé de violence qui la sépare de la cité de Mute et, plus globalement, des autres cités. Les débuts de l'histoire de la Lune ont été emplis d'agressivité. Les invasions primaires en sont témoins. Que les citadins se soient peu à peu calmés n'est pas étonnant. Leur survie était à ce prix. Que la Cité Franche soit restée aussi archaïque, c'est une surprise. Elle n'est pas très bonne. Je ne peux pas regretter que la cité de Mute ait renoncé à se doter d'animaux de compagnie. Dans ce domaine, la commanderie de Mute a sagement agi. Voir des animaux libres, augmentés ou non, évoluer au sein de leur propre règne est une grâce. Mais bénéficier de la présence de Trim à la ferme en est une autre. C'est pourquoi j'ai apprécié de retrouver les chiens et les chats augmentés de la Cité Franche. Les rapports sociaux de ses habitants sont riches et emplis d'urbanité, autant que c'est possible dans ce chaudron infernal. Ils se regroupent en clubs de discussion. Les chiens sont assis au centre, toujours un peu haletants. Leur parole est lente et abondante, de même que leurs raisonnements sont besogneux mais obstinés. Les chats sont juchés plus haut, leurs pattes ramenées sous eux avec cette élégance particulière à leur espèce. Ils se nettoient les flancs en émettant de temps à autre un avis qui va du subtil à l'acerbe. Ils restent volontiers silencieux, peut-être même boudeurs, ce dont les chiens ont décidé une bonne fois pour toutes de ne pas tenir compte. Quand la conclusion d'un débat déplaît au chat, Ils peuvent se montrer disgracieux, surtout les siamois. Et les chiens prêtent l'oreille à leur mécontentement avec beaucoup de bonne volonté, sauf les caniches. Il y a entre les caniches et les siamois une certaine parenté morale. Mais je crains que les caniches tiennent plus encore de l'humain. Nerveux, insatisfaits, destructeurs et bruyants, les caniches sont à eux seuls un embarras permanent dans les clubs de discussion. Il en faut bien un, je suppose. Au fil de ma visite à la Cité Franche, j'en suis venu à déplorer que les chats et les chiens francs citadins ne soient pas dotés de pouces opposables. Avec un peu plus de facilité à usiner le matériel, ils feraient, à mon sens, de bien meilleurs gestionnaires de leur environnement que les humains. Les chats, surtout, ont un vrai sens de l'hygiène. Les chiens et les chats développent, avec certains robots, des programmes capables de pallier leur inaptitude manuelle. J'espère beaucoup de ce programme, même si je crains que les chiens ne souffrent encore longtemps du tempérament de meute. Celui-ci les pousse à obéir aveuglément à un chef. Or, aucune civilisation ne dure quand elle obéit sans réfléchir. Les chats, eux, ont le problème exactement inverse. Il leur manque le sens de la coopération, sans lequel aucune civilisation ne peut même commencer. Une fois ces défauts domptés, peut-être verrons-nous un jour une cité d'animaux augmentée. Il y régnerait probablement une atmosphère de paix jusque-là inconnue, à laquelle je prêterais volontiers mes propres pouces. J'ai eu l'occasion d'offrir leur service quand Altepeme, le rétriveur dominant d'un club de chiens du quartier Pull, a été enlevé pour livrer combat dans une arène. Les chats m'ont mené à lui. J'ai manqué 20 fois de dégringoler du haut des gouttières. J'ai trouvé Altepeme lové au fond d'une cage, haletant de soif, son épais poil crème maculé de goudron et ses beaux yeux navrés de désespoir, mais sans une once de révolte. Les chiens ont, en l'humanité, une confiance toujours déçue. Décidément, la soumission au chef est un énorme écueil sur la route de leur autonomie. En contrebas, le long d'une faille gréée de longs câbles, les organisatrices du combat préparaient l'arène dans la pénombre. J'ai usé de mes précieux pouces pour ouvrir la porte de la cage et j'ai pêché Altepeme par le col. Il m'a fallu le réconforter pour qu'il daigne bouger. Il gémissait doucement. Les chiens se laissent parfois mourir sous les coups de leur maître, mais ce n'est pas par bêtise ou lâcheté. C'est par refus de vivre dans un monde où de si cruelles injustices sont possibles. Comme les antiques, ils jettent la nature humaine à pile ou face, sur leur propre tombe. Crever au pied de l'humanité, c'est une façon de la faire comparaître devant le tribunal de leur volonté. Bien vainement, à mon avis. Les chats les méprisent un peu pour tant d'apparente lâcheté, mais expliquer l'empathie à un chat, personne n'y est encore parvenu. J'ai déposé Altepeme en lieu sûr, à l'entrée d'une canalisation. Il s'y est faufilé, la queue basse. En contrebas, les amateurs de combat de chiens commençaient à arriver, un siège sous le bras. Ils cherchaient où l'accrocher parmi les aspérités de la paroi et discutaient avec agitation. Une vente de pain de glace avait mal tourné, autant que j'ai pu le comprendre. Un marchand d'énergie parlait d'une pile nucléaire et en vantait les belles courbes en agitant les bras. La maître chien a alors pris la parole, un ton au-dessus, et a enchaîné sur les belles courbes d'Altepeme et sur celles de son adversaire.
« Vous allez voir ces pelages brillants, et ces muscles de tueur, et ces crocs, et ce n'est rien comparé à leur férocité !»
Entendre mentionner la férocité d'un rétriveur m'a choqué. Jamais jusqu'alors, je n'avais compris à quel point les citadins sous-lunaires découpent le monde en marchandises. Marchandises dont je suis. Car il est arrivé qu'on parle aussi de mes belles courbes. Je ne sais pas quelles affinités les humains ont avec les courbes. Je devine que c'est sexuel, mais eux seuls sont capables d'étendre le domaine de la sexualité jusqu'à une pile nucléaire ou un chien terrifié. Les amateurs se sont tus devant l'autorité de la maître chien. Tandis qu'elle levait les bras vers les cages de ses deux prisonniers, en vraie prêtresse d'un culte sanglant, l'assemblée l'a acclamée d'une seule voix, un unique et puissant mugissement. J'ai ressenti dans mes os la force du groupe qui soude et dissout les volontés. C'est alors qu'ils m'ont aperçu. Je venais de décider de libérer aussi Tatlan, l'adversaire d'Altepeme. Pour dire les choses avec précision, je me suis hissé jusqu'à sa cage d'une traction afin de m'assurer de son état de santé, un centième de seconde avant de décider de le délivrer lui aussi. Il s'agissait d'un dog, petit, râblé, paisible et bon tueur, comme souvent ceux de sa race. Je sais quel combat aurait opposé les deux chiens. Altepeme aurait fait beaucoup de bruit, donné de la tête et de la queue, labourer le sol avec ses griffes à s'en faire saigner les coussinets. Enfin, il aurait tâché d'impressionner son adversaire. Tatlan n'aurait guère bougé, il n'aurait pas dit un mot, mais il aurait esquivé avec une agilité de couleuvre. Il aurait fini par bondir et crocher Altepeme au cou. Puis il l'aurait étranglé, pouce par pouce, dans sa gueule bien fendue, avalant poil et peau jusqu'à étouffement complet d'Altepeme. J'ai déjà vu ça. Tatlan non plus n'a pas apprécié d'être dérangé.
« Bas les pattes » a-t-il grogné.
Les chiens n'ont décidément pas le sens commun. J'ai eu le temps de le soulever par son ventre rondelet et j'ai couru aussi vite que j'ai pu d'une corniche à l'autre, sautant les rues et enjambant les toits, mon petit paquet mécontent sous le coude. J'ai fui d'abord devant les amateurs de combat de chiens, moins véloces que moi, puis devant une milice du quartier, des bottes de combat agiles et rapides, dotées de masques de cauchemar. Ils étaient sur mes talons quand j'ai aperçu, perché sur une gouttière au loin, la silhouette de Trim. J'ai fait le plus grand saut dont j'étais capable et j'ai percuté une gouttière qui s'est écroulée sous mon poids. Mais j'avais eu le temps de me raccrocher à un pan de mur au-dessus de la gouttière. Celle-ci a emporté dans sa chute deux de mes poursuivants et les autres n'ont pas osé faire le grand saut. Nous étions quand même à 200 mètres d'altitude et le gouffre qui avait englouti leurs collègues était vertigineux. J'étais suspendu au-dessus du vide par une main, l'autre tenant toujours Tatlan. J'ai attrapé Tatlan par le col avec mes dents et je me suis hissé en haut du mur à la force des poignets. Puis j'ai posé le chien toujours mécontent à mes pieds, je l'ai poussé dans un conduit étroit et je suis reparti au pas de course à la poursuite de Trim. Celui-ci m'attendait un peu plus loin. Il a plongé dans une conduite rouillée et je l'ai suivi sans hésiter. Derrière moi, les bottes de la milice mugissaient des alertes tonitruantes. Il valait mieux ne pas rester dans le coin. Bien sûr, le chat que j'avais aperçu n'était pas Trim. C'est une chatte et elle s'appelle Vuidette. Elle m'a servi de guide dans de nombreux quartiers de la Cité Franche pour que j'y mène mes différentes recherches. Échantillonnage d'atmosphère, ponction discrète de données de centres de santé et prélèvement d'ADN félin. Elle m'a même donné des nouvelles d'Altepeme. C'était de mauvaises nouvelles. Nous étions dans l'enclave de Silith, assises côte à côte dans la boucle d'un dragon de néon bleu. Nous avions une vue magnifique sur les guirlandes des pistes de Newport, que de fréquents accidents de navettes illuminent de grandes roues de feu. Vuidette nettoyait ses moustaches. Je jouais avec ses trois chatons, et Vuidette m'a raconté la suite des aventures d'Altepeme. Bien sûr, je me doutais qu'Altepeme n'aurait pas la capacité mentale de lutter contre son caractère. Il y avait 9 risques sur 10 qu'après que je l'ai délivré, il retourne vers son maître, celui-là même qu'il avait vendu à la reine. Vuidette m'a appris qu'il avait été vendu une fois de plus et qu'il avait perdu son dernier combat. Hélas, je suis apte maintenant à voir ce beau chien couché sur le flanc, dans son pelage souillé de poussière et de sang, agonisant sans recours parmi les cris de joie. Altepeme était joyeux, léger et sûrement le plus inventif des rétrieveurs que j'ai jamais rencontré. Il avait des idées novatrices dans le domaine de l'usinage de ressources autonomes. Tout cela a tourné à la pourriture et désormais, il est trop tard. Je ne confonds plus en moi l'évaluation rationnelle d'un gâchis de compétences et la sensation de perte causée par l'amputation d'un lien. Mais je distingue mal un élément supplémentaire. L'ouverture brutale d'une cavité, creusée dans la trame même de ma perception du monde et que hantent des souvenirs plaintifs. Cet élément-là m'est encore obscur, mais il existe. Il est de l'ordre de la sensation, et il a quelque chose à voir avec la justice. Vuidette a paru peinée. Elle a su l'exprimer à sa façon miaulante, en termes choisis, ce qui n'est pas courant pour une chatte. Du moins, ça ne l'était pas. Mais il me semble que chez elle aussi, et chez tous les chiens et les chats depuis que le génie génétique les a augmentés d'un larynx, l'accès aux mots a initié une forme de lent dépliage mental. Les mots, ces unités conceptuelles et chamarrées, sont décidément bien puissants. Cependant, ce sont des mots humains, et qui parlent humain et forcés de penser en humain. Je me demande quelle langue articulée parlerait Vuidette et tous les autres s'ils avaient eu, naturellement, le larynx pour en inventer une. Ce qui m'amène à m'interroger sur l'évolution des langues canines et félines. Aucune langue ne demeure inerte quand elle passe de bouche en bouche ou, en l'espèce, de museau en museau. Déjà, le mandarin courant se chiénise en longue mélopée. Les chiens sont des poètes, ils excellent dans le genre lyrique. Les chats sont plus sobres, mais pas moins esthètes.
Ils aiment les formes courtes et réglées. Ce sont des animaux de sonnet. Mais la vraie différence entre les humains et les autres espèces, c'est, eh bien, c'est un vaste débat qui agite les clubs de discussion de chiens et de chats. De mon point de vue, c'est la mémoire. Les humains ont la mémoire longue, ce qui fait leur force et leur petitesse. Cette mémoire qui s'étire sur des siècles facilite les apprentissages, mais elle pèse sur leurs épaules. Ils ne sont jamais libres parce qu'ils sont héritiers. Ils sont lestés dès la naissance de mots antiques qu'il faut venger, célébrer ou redresser. La problématique du langage m'intéresse. Il faudra que je m'entretienne avec des linguistes des véhiculaires canins et félins. Je parie que le mandarin caniche a déjà toutes les caractéristiques d'un Isola. Les caniches sont des gars de sauce. J'en reviens à Newport et à Vuidette. J'ai surmonté l'annonce de la mort d'Altepémé et j'ai échantillonné l'ADN de Vuidette avec un certain espoir. Après tout, j'avais confondu sa silhouette avec celle de Trim. Mon vœu a été exaucé. Vuidette partage avec Trim une longueur significative d'ADN. C'est une cousine, pas très proche, mais c'en est une. J'imagine qu'une succession de dons et de contre-dons intercités explique la présence de gènes Bombay dans ce cloaque qu'est la Cité Franche. Une vague de gratitude a chassé ma contrariété. J'ai parlé de Trim à Vuidette. Trim est drôle, aimable, et il a une voix très douce, lui ai-je expliqué. Quand il s'en sert, du moins, car il est assez peu bavard.
Ah, il est bien comme ma trisaïeule. Elle ne décrochait pas un mot.
Mais il est très patient.
Alors il ne tient pas d'elle, c'est certain. Elle avait la patience d'un siamois.
Je lui ai ensuite confié le message que m'avait donné Trim pour le cas où je lui trouverais un parent ou une parente. Je ne sais pas ce qu'il contenait, mais Vuidette a semblé touchée. Elle m'a donné un plan phéromonal de son territoire, afin que Trim et moi puissions la retrouver lors de notre prochaine visite.
« Emporte quelques images de moi avec mes enfants. Tu pourras les lui montrer, ça lui fera plaisir. »
Je l'ai filmé jouant avec ses chatons, mordillant leurs oreilles et léchant leurs mentons. Je me réjouis déjà de la joie de Trim quand il verra ça. Je ne raconte pas ici la façon dont j'ai été exfiltrée de la Cité Franche, évidemment. Je me contente d'affirmer que je sais désormais, de sources sûres, qu'à la Cité Franche, on meurt de tout, et le plus souvent de morts violentes, mais pas de la fièvre aspic. Me voilà sur le chemin du retour vers l'usine de glace d'Etken. Je retrouve avec soulagement les vastes espaces silencieux de la surface sous le feu blanc du soleil. Les murs de dédale s'étirent au loin, gris-perles, avec des ressauts couleur plâtre frais, des corniches d'étain et des avers semblables à des torrents de mercure qui se perdent dans le lac de Korsaga. Cette étendue de poussière d'un blanc de talc vire à la nacre au centre et se craquelle comme de la porcelaine le long des rives. Tandis que la voile oscille au-dessus de moi, j'essaie de comparer la vie des citadins de Mut à celle des francs citadins. En ce qui concerne l'hygiène et la qualité de vie, je suppose que ceux de Mut gagnent sur tous les points. Pour ce qui est du bonheur de vivre, j'ai moins de certitude. Les francs citadins n'ont pas à supporter des vagues suffocantes de deuil, car leur existence est brève et brutale. Aussi, je parie qu'ils sont moins malheureux que les citadins de Mut. Je mentionne au passage que, si un jour les francs humains s'avisent de la dépopulation des autres cités, on peut craindre un retour des invasions. Considérant leur vilain caractère, je ne crois pas utile à la paix sociale de diffuser cette information. Ma prudence est probablement vaine. En temporalité humaine, on est toujours avant-guerre. 27e jour du 5e mois de l'an 2325. Etken. Quand je suis arrivée chez le gardien des glaces, j'ai compris ce qui s'était passé alors même que j'amarrais ma voile. J'ai vu les innombrables traces de chenilles devant l'entrée. Le gardien des glaces avait négligé de les damer. Or, le gardien des glaces n'oublie jamais rien. J'avais pourtant jeté le scaphandre de louche dans un cratère près de Pagpapatapon, afin qu'on le croie mort. Mais un rover a dû pister notre trace. Hélas, tant qu'une information fuse dans un environnement siliceux, elle va au plus court et ses effets sont mesurables. Mais sitôt qu'elle fuite auprès d'entités chimiques, elle se diffuse en étoiles, rebondit en tous sens et déclenche des réactions parfois démesurées. Pas moins de 12 officiels Pagpapatapon avaient fait le trajet pour mettre la main sur Louge, alors que le gardien des glaces n'avait pas la légitimité pour s'opposer à un seul d'entre eux. Et que Louge n'avait pas l'âge pour opposer d'autres résistances que des larmes.
C'était un enfant. Malgré les arguments juridiques du gardien des glaces, Louge a été emmenée par les officiels de Pac-Papa-Tapon et immédiatement livrée aux tubes non urbanisés. Les tubes obscurs. La lune l'a avalée. Ont expliqué les actualités de Pac-Papa-Tapon sur un ton mesuré qui cachait mal une satisfaction sauvage. Aucun article n'a mentionné que Louge avait, un temps, trouvé refuge chez le gardien des glaces et qu'il y avait été purement et simplement enlevé. Enlevé, puis assassiné. Le gardien des glaces et moi-même sommes d'accord. Le sort fait à Louge relève d'une infraction manifeste à tous les traités lunaires et sous-lunaires, aux constitutions des deux planètes, aux plus simples droits humains et même au code de Pac-Papa-Tapon. Personne n'a élevé de protestation. Et on ne rend pas la justice quand elle n'est pas demandée. L'air léger de la ronde des cailloux est venu me taper sur l'épaule, métaphoriquement. J'ai compris ce qu'il voulait me dire. Il me signifiait que je n'avais pas su, pendant le bref instant de notre relation, offrir à Louge l'oasis d'une attention soutenue. J'aurais pu faire plus. J'aurais pu l'emmener à la Cité Franche. Tout le monde peut trouver asile à la Cité Franche. Mais le bel adolescent serviable et empoté n'aurait pas survécu. Dans ce biotope hostile, qui est sans férocité et sans alliance, n'a aucun avenir. J'aurais pu aussi faire savoir la présence de Louge chez le gardien des glaces. Les 12 assassins n'en seraient pas arrivés plus tôt, et ils auraient peut-être reculé devant un meurtre public. Je n'ai même pas eu la présence d'esprit de confier à Louge un cachet de poison. Je me suis représenté ce petit grand errant sans recours dans un boyau éternellement obscur, avec une maigre provision d'air dans son scaphandre et une simple lumière frontale. Considérant le délai entre son enlèvement et mon retour, il est désormais trop tard pour tenter quoi que ce soit, une fois de plus. Le gardien des glaces n'a pas été bavard sur le sujet. Que pouvait-il dire? Pour ma part, j'ai fermé la bouche de mes dialogues intérieurs. Il me faisait éprouver des sensations multiples et toutes détestables. Elles ralentissaient le travail nécessaire pour atteindre mon objectif premier. Découvrir un remède à la fièvre aspic. J'ai rapporté des échantillons d'atmosphère de la Cité Franche. Il me reste à les analyser. 29e jour du 5e mois de l'an 2325. Etken. J'ai utilisé le laboratoire du gardien des glaces pour analyser les échantillons d'air prélevés à la Cité Franche. Pour rappel, l'atmosphère de la cité de Mut est composée de 71,01% d'azote, 28,06% d'oxygène et de microtraces, dioxyde de carbone, ammoniac et méthane essentiellement, plus les poussières organiques. Soit un bain de jouvence si on le compare à celui dans lequel baignent les francs citadins. Plusieurs dioxydes. Silicium, titane et soufre, entre autres. Du monoxyde de carbone à un taux effrayant et du benzène, du formaldéhyde, du butadiène, du benzopyrène. En conséquence, leur taux d'oxygène est très maigre. À peine plus de 19%. L'hypothèse la plus plausible est que les francs humains évitent de mourir de la fièvre aspic en mourant d'autre chose avant, et d'abord d'asphyxie. J'ai demandé au serveur historique de la cité de Mut un relevé de l'atmosphère terrestre. C'est le dernier qui ait été effectué in vivo, il y a plus de 2 siècles. 71,01% d'azote, 27,93% d'oxygène et, pour ce qui est des microtraces, les mêmes polluants qu'à la cité franche, en pire. Argon, néon, krypton, xénon, radon, et puis de l'ozone, de l'arsenic, du chrome, du cadmium et quantité de débris de micro-organismes et de poussière minérale. Je me demande vraiment ce que je cherche. Il y a longtemps que ces analyses atmosphériques ont été menées dans le cadre de la lutte contre la fièvre aspic, sans résultat. Mais je suis en butte à des sensations que je ne m'explique pas toujours. Or, concernant la fièvre aspic, j'ai la sensation que quelque chose d'évident est là, sous mon nez, et attend d'être vu. Premier jour du 6e mois de l'an 2325. Etken. Avant que je prenne congé de lui, le gardien des glaces a joué de son orgue sonore pour célébrer le retour de la nuit solaire. Il a chanté d'antiques Rangengao, antérieurs même à la conquête malienne et que les faucheurs de sorgho se sont passés de bouche en bouche à travers les siècles. En l'écoutant, je me figurais de vieilles coupeuses de broussailles allumant un feu au bord d'un chemin de Mopti, sous le crépuscule qui remplit le ciel de sang. Au-dessus de nous, la voie lactée basculait d'un bord à l'autre de l'horizon.
« Je me souviens,
m'a dit le gardien des glaces en repliant son orgue. Je me souviens de ce premier lunaire qui me régalait d'histoires d'insectes. Il y avait sur Terre, d'après lui, tant d'insectes, de moucherons surtout, qui tremblaient dans l'air comme des colonnes de chaleur avant de finir écrasés en étoiles sur les vitres des véhicules. Les terriens les lavaient à l'eau pure en pestant. On se demande contre quoi.
Je lui ai relaté à mon tour un témoignage que j'avais recueilli au tout début de la colonisation de la Lune. Un vieux terrien avait mentionné un épisode qu'il nommait « le grand assourdissement ». Il en parlait comme d'un lent endormissement. J'ai entendu les abeilles se taire, les grillons se taire et les grenouilles.
Fatalement, les oiseaux se sont tus un à un, les geais d'abord, puis les hirondelles, le mythique coucou et l'invisible pivert, les colombes enfin, et le roucoulement des cours d'eau sous les herbes.
Le silence régnant dans les montagnes d'Anatolie était chaque année plus immense. Les enfants pouvaient désormais marcher parmi les cystes sans craindre les vipères. Puis ça a été au tour des cystes de se rabougrir et s'effacer, avec les bruyères, et les champs de coton couchés sur le sol pour le compte, raides et noirs comme des chevelures coupées. La dentelle verte des mousses a été soufflée, tant et si bien que les vieux chênes sont restés seuls au-dessus de la terre décharnée, fendus de crevasses qui n'espéraient même plus l'eau. Pourtant, ce terrien ne semblait rien regretter. Il avait tenté de m'expliquer. C'est très égoïste de ma part, je sais, mais c'était si magnifique. Ce moment où l'être humain régnait sur un monde dompté et profitait de tout avant que tout ne s'abîme. Nous étions grands et les dents saines, nous nagions dans l'air pur en riant au nez des maladies. Nulle part on avait trop chaud ou trop froid. La température même était docile devant notre technologie. Chauffage et climatisation tournaient à plein régime. L'eau coulait en abondance, la nourriture débordait des champs et des mers. Pour nos corps triomphants, il était possible d'être le matin ici et le soir là-bas, de l'autre côté de la Terre. Nous bondissions d'un lieu à l'autre dans des machines splendides portées par les airs, admirant au passage l'horizon bas sur les prés verts, les villages au fond des forêts et les océans bleus, les glaces blanches et la giration crémeuse des typhons, tandis que le soleil cognait sur les flancs de métal de nos avions. À l'arrivée, nous cueillions des fleurs au bord des routes. Et ce n'était rien comparé à la vitesse des informations qui circulaient en tresses épaisses d'un pôle à l'autre. Elles formaient comme une énorme planète seconde, un double terrestre entièrement tissé par notre imagination. Des sons et des couleurs, tant de paroles et de musiques et d'images, comme des millions de fenêtres ouvertes sur d'autres mondes. Il y en avait tellement que même l'ennui n'existait plus. Et la mort à peine. Nos enfants naissaient énormes. On leur promettait plus de 100 années d'existence, c'était sublime. Il avait conclu après un temps. Mais finalement, ce n'était pas raisonnable. Puis il avait parlé du terrible soleil, un pléonasme courant à cette époque où les canicules se succédaient, chacune plus écrasante que la précédente. Il m'avait parlé de cet horrible beau temps. La conversation m'avait semblé notable, je n'y avais rien compris. Le gardien des glaces et moi avons encore échangé quelques souvenirs de cette sorte, incompréhensibles. Tout ce qui touche à l'humain en particulier et à la Terre en général comporte toujours un point obscur. C'est le cas de cette phrase de Sauffol. L'étoile d'araignée recouvre les murs d'un voile lugubre. Le terme « lugubre » ne caractérise-t-il pas les lieux sans vie et sans espoir? Et ne faut-il pas des conditions rares et précieuses pour qu'une araignée puisse tisser une toile, ce chef-d'œuvre géométrique? Le gardien des glaces a employé l'expression « marâtre nature ». Je me suis étonnée qu'il la connaisse.
Je suis persuadée que le terrien vouait en secret une haine féroce à la nature.
À la nature?
C'est-à-dire à son propre écosystème. Cette haine lui venait d'avoir été traitée pendant des siècles par la nature comme le tube à essai d'infections variées, sans discerner les avantages adaptatifs de la méthode,
a conclu le gardien des glaces le plus sérieusement du monde. Le gardien des glaces n'est pas très sensible aux individualités. Pour lui, mourir de la malaria ou de la grippe n'est pas un drame individuel. C'est juste le signe que la victime se situe du mauvais côté de la sélection naturelle. Tant pis pour elle, et tant mieux pour son espèce.
Des millénaires d'épidémies ont forgé aux terriens une mentalité revancharde contre la nature,
a-t-il continué.
Dès qu'il a eu saisi la gouverne de son destin d'un bras d'acier, grâce à ses découvertes scientifiques et techniques, il n'a eu de cesse de porter le fer contre la nature, c'est-à-dire dans son propre ventre. exactement comme un herscheur piégé dans une fosse qui se démantibule la trémie à force de tirer dessus. Le ressentiment est un puissant moteur qu'on ne coupe pas dès qu'on n'en a plus besoin.
J'ai parlé au gardien des glaces des discussions entre chien et chat. Ils ne sont pas tous d'accord, mais moi, j'ai une théorie sur la mémoire humaine. C'est un lourd héritage qui pèse sur leurs épaules autant qu'ils les portent. Le gardien des glaces m'a regardé de travers.
C'est exactement ce que je viens d'expliquer.
Puis il a sorti sa flûte sonore et m'a confié.
Il paraît que le bruit du vent en haut des arbres ressemblait à celui de la mer.
Je suis dubitative. Je connais le bruit du courant d'air en haut des faîtages de l'étroite forêt Lalande, mais je n'ai jamais entendu la mer. Il me semble que ce devait être un son plus profond. Le gardien des glaces a joué un air d'Onof Weroswoke. En l'écoutant, je me suis rappelé que d'après les archives, sur Terre et en zone tempérée, lors des aubes de printemps, les oiseaux chantaient si fort qu'on aurait cru des hurlements. Quelques faits se sont alors lentement assemblés. Certaines nuits, à la ferme Lalande, les coassements des grenouilles sont si nombreux que le fragile sommeil de Trim n'y résiste pas. Je me suis représenté des colonnes épaisses de moustiques portant dans leurs flancs légers la malaria ou la dengue, buvant le sang et répandant les fièvres. J'ai compris ce que le gardien des glaces voulait dire. Que l'assassinat de l'écosystème terrestre n'était pas forcément le triste résidu de l'avidité humaine. C'était peut-être le résultat d'une volonté humaine pleine et entière, tendue comme un poignard et guidée par la haine. C'est son hypothèse, et je ne lui donne pas entièrement tort. Finalement, tout cela aboutit toujours au même étonnement banal. Que la nature ait été broyée par un de ses composants. Un composant qui n'était pas assez massif pour dominer les autres espèces, pas assez vif pour fuir les prédateurs et pas assez armé pour se défendre. Qui n'était même pas un super prédateur, ni le plus agressif des mammifères, ni le plus prolifique des primates, ni le plus intelligent des hominidés. Le gardien des glaces traite volontiers l'humanité de « phénomène épidémique ». C'est bien digne d'un symbioticien. Je l'ai remercié pour son accueil. Je lui ai aussi dit ma déception. Je suis étonnée que tu n'aies pas trouvé des arguments juridiques suffisants pour soustraire Louge à son sort. Je sais que tu as, comme moi, l'obligation d'obéir aux autorités citadines. Mais obéir aux lois, n'est-ce pas d'abord éviter la mort à un enfant ? Il n'a rien répondu. Je n'en attendais pas plus. J'ai de nouveau comparé mes pipettes ADN avec le profil de Trim. La correspondance avec Vuidette est unique, mais elle est tout à fait positive. J'ai gardé les échantillons afin que Trim ait l'occasion de refaire le travail. Comme bien des chats, il est dans le contrôle. J'ai seulement jeté 3 pipettes illisibles, plus 4 profils de chiens et un d'acariens. Les prélèvements à la volée ont leur part de hasard.